Bonjour et bienvenue dans la saison 2 d'AZ Radio 13. Cette année, c'est moi, Antoine Saliou, qui co-animerai cette émission avec Chloé Lacrampe.
On va venir vous voir pour vous donner la parole, pour faire des blagues, pour discuter de l'ensemble du groupe scolaire. On est tous les deux très contents de venir à votre rencontre.
Aujourd'hui, l'émission tournera autour du succès. Pour tous nos auditeurs qui se posent des questions sur leur avenir, cette émission est faite pour vous. Pour vous montrer qu'il n'existe pas un chemin tout tracé et que la pression la plus forte est celle que vous mettez. Nous verrons tout ça dans notre grand format. Puis après, nous irons voir nos primaires pour leur poser une question sérieuse. Et enfin, nous terminerons avec nos recos, qui sont l'histoire de femmes népalaises et le film Monstre Academy. En espérant vous plaire, tout de suite, les news.
Et oui, malgré la crise sanitaire, il se passe toujours des choses à Saint-Vincent-de-Paul. Tout d'abord, la semaine dernière a eu lieu la conférence « Les maths et les filles » par les associations Animat et Femmes et Mathématiques, qui s'est adressée à des collégiennes et lycéennes de 3e et de 2nd, et où des femmes scientifiques ont abordé les études et les métiers en rapport avec les mathématiques et l'informatique. On a aussi les élèves faisant partie du programme des Cordées de la Réussite, qui ont participé à la Journée Nationale des Cordées, avec une intervention sur le thème « Citoyenneté et engagement ». Les Cordées de la Réussite, c'est quoi ? C'est un programme qui concerne à Saint-Vincent-de-Paul les bacs pro santé sociale et les bacs pro commerce, avec pour objectif de les aider à s'orienter au mieux dans leurs études supérieures grâce à du tutorat, des rencontres, ou à des interventions extérieures. Par exemple, cette semaine, les premières SPVL ont eu une intervention sur les émotions et la confiance en soi. On est d'ailleurs allé demander à deux élèves comment ces émotions jouent-elles dans leur orientation. On les entendra tout à l'heure dans notre grand format. Et enfin, pour finir, vous avez peut-être entendu parler de la nouvelle chaîne de télé Culture Box qui vient d'être lancée par France TV ce lundi 1er février 2021. En fait, c'est une chaîne qui a pour objectif de reconstruire le lien entre les artistes et le public en ces temps de crise sanitaire. La chaîne est éphémère, elle existera tant que les lieux culturels seront encore fermés. Il y aura des concerts, du théâtre, de l'humour, des visites, de l'opéra, bref. Allez vraiment voir le programme, c'est sur le canal 19 de la TNT et évidemment, la majorité des programmes sont en replay sur le site de France Télé.
Merci Chloé. Passons maintenant à notre grand format qui tourne autour de cette question. C'est quoi le succès ? Pour répondre à cela, nous avons rencontré Roxane, une ancienne élève de Saint-Vincent-de-Paul, qui nous a raconté son parcours atypique. Excusez-nous pour la qualité sonore, l'entretien s'est fait par téléphone. Après, nous sommes partis à la journée sociale des BTS SP3S, où ils ont pu rencontrer différentes personnalités qui leur ont raconté comment ils ont mis l'engagement au cœur de leur succès. Comme avec le Café Joyeux, par exemple, dont on parle à la fin. Enfin, après un cours attaché aux cordées, sur la gestion des émotions, nous avons rencontré deux premières très éveillées sur cette notion d'émotion et de succès. Je vous laisse maintenant avec leur témoignage.
Donc ça s'est très bien passé pour moi à la terminale. Je pensais pour le coup pas avoir mon bac. Et au final, j'ai eu cette mention. C'était le plot twist de l'année pour moi. Donc, tout s'est très bien passé. Et au final, j'avais demandé une place de mode, mais j'ai été acceptée. Mais, tu sais, à la suite, enfin, moi, c'est ce qui s'est passé pour ma part. Je sais que c'est pas le cas pour tous. J'ai, entre guillemets, une prise de conscience et je me suis dit, écoute, 10 000 euros l'année, plus les tissus, plus la machine à coudre, plus les bouquins, plus ça, ça fait quand même un gros investissement. Ça fait plus de 30 000 euros en termes de crédit. Enfin, c'est une prise de conscience. Je me suis dit, c'est quoi? Ouais. Va pas en école de mode et tente un truc que tu sais pas. On m'a toujours dit les bacs pro n'iront jamais à la fac. Donc moi, je suis partie un peu en vrille dans ma tête et j'ai demandé une LEA à Nice. LEA, c'est langue étrangère appliquée en anglais espagnol, mais je suis partie à Nice. Et même pas, je suis restée à Paris, je suis partie dans le sud. Pour te dire. Ça s'est très bien passé. En LEA, t'as deux langues et après, t'as plusieurs options. Nous, à Nice, on avait économie et droit. Et j'ai validé mon droit, j'ai validé l'économie, j'ai validé l'anglais, mais je n'ai pas validé l'espagnol. Et en voyant ça, j'ai fait « bon, bon bah je vais arrêter ». Donc j'ai préféré arrêter la fac et je me suis prise en main en quelque sorte. J'ai grandi, j'ai mérité un coup et j'ai trouvé un travail en tant qu'intégrine dans une boutique à Nice. J'en ai profité pour passer mon permis, pour faire des économies, acheter ma voiture, enfin vraiment grandir et évoluer, tu vois. Donc après, j'ai commencé une LEMA. En gros, c'est comme l'aide moderne appliquée, mais à la différence, c'est que tu vas avoir des cours de journalisme ou de communication. Okay. Mais le premier jour de cours, quand on m'a dit l'ancien nom de la filière, c'est l'aide moderne appliquée, ça m'a pas plu, donc j'attends la réorientation au mi-semestre. Donc c'est ce qui s'est passé. Entre temps, j'ai occupé un travail à temps partiel, donc je voulais pas rester les bras croisés à rien faire. Entre temps, j'ai occupé un travail, mais j'allais à la fac parce que je me disais, c'est toujours des acquis, donc j'allais en cours de phonétique, en cours de culture latine, mais ça me plaisait pas forcément et je voulais vraiment pas faire ça. Donc j'ai dit, bon, vu qu'en réorientation, il y a que le BTS tourisme, je vais tenter, ça peut peut-être me plaire, parce que j'ai beaucoup voyagé. Donc je suis allée en BTS tourisme à l'ENT Bézières, dans le 17e, Et ça s'est super bien passé pour le coup. Super bien, très bonne classe. Tout était parti comme sur des roulettes. Franchement, j'ai zéro complication. Et fin d'année, je sais pas pourquoi, je me suis dit, et si je partais en Belgique. Donc, j'ai dû reprendre encore en première année, mais cette fois-ci dans une école de communication. Vraiment quelque chose qui me plaisait. C'est... Pour le coup, la com, c'est le domaine, je pense, que, par définition, qui me correspond. Et en gros, donc, moi, de base, enfin, je me suis dit, oh, si je fais mon BTS, j'arrête en bac plus 2. Mm-hmm. J'arrive en bac plus 3, c'est bon, je vais arrêter. Et là, d'un coup, je me suis dit, bah, tu sais quoi, pourquoi pas tenter un master? Donc, pour la blague, j'étais chez moi, j'ai fait des, attends, mais pourquoi pas tenter Sciences Po? Enfin, mes potes se sont dit, non, ils m'ont un peu chauffé sur votre nez, non, tu vas Sciences Po quand même, c'est dur, j'ai fait non. Et moi, quand on dit non à quelque chose, c'est là où je vais vouloir faire la chose, tu vois, c'est, comme on dit toujours, c'est un peu l'interdit. Dès là où on te dit non, c'est interdit, c'est où tu fais la chose, tu vois. Donc, je me suis dit, pourquoi pas tenter Sciences Po? Donc, j'ai tenté Sciences Po et j'ai déposé mon dossier. Et franchement, au fil, peut-être que la blague s'est retournée contre moi, mais j'adore leurs cours. Enfin, j'ai regardé la plaquette de cours et j'ai fait, purée, en fait, ma blague, peut-être au début, ça partait d'une blague en mode, quoi, je vais tenter. Mais au final, je me suis dit, mais en fait, ta blague, il faut arrêter de la faire parce que c'est vraiment, les cours sont intéressants, les profs sont intéressants, les matières sont intéressantes et le contenu est intéressant. La communication, c'est plus la voix de la raison et la mode, c'est plus ma passion, quoi, c'est la voix du cœur. Je peux résumer ça. Personnellement, j'aimerais bien faire attaché de presse pour les marques Nike, Streetwear, tu vois. Ou même dans le domaine du sportswear en tant que responsable marketing ou je ne sais quel autre métier possible, parce que pour moi, je sais qu'il y a une multitude de métiers inconnus encore en France et qu'il faut qu'on découvre. Et ouais, non, j'aimerais bien lier les deux, mais si je n'ai pas la chance de lier les deux, j'aimerais m'en rapprocher au maximum. Bah, le succès pour moi, c'est d'abord d'être heureux et de ne pas taper des burn-out à son travail. Ça, c'est une chose primordiale, que ce soit au travail ou dans la vie de tous les jours à l'école. Moi, je pars de ce principe que tu dois être heureux. Parce que ma mère m'a toujours dit, c'est tant que toi, tu es bien dans ta tête et que tu as envie d'y aller, que tu ne vas pas reculons, c'est ce qui compte. Parce que c'est important de faire quelque chose que tu aimes et pas un truc qui te... Enfin, pour moi, c'est ça le succès. Le succès, c'est ne pas aller au travail en se disant, putain, je vais faire un burn-out. Même si ça te plaît pas forcément, tant que tu y vas, mais pas à reculer en mode, putain, la flemme, c'est ça le but. Très simple. C'est juste, le succès, c'est être heureux, pour moi. Mmh. Un truc que je me serais toujours dit à moi-même et que j'ai toujours suivi, c'est, suis ton instinct, mais pas trop non plus. Donc, ouais, je dirais, suis mon instinct. Et ne pas avoir, suis mon instinct, mais pas trop, et pas avoir peur de l'inconnu. Choisis comme tu le sens, t'as. Mais je me souviens d'une prof qui dit la fac c'est pas fait pour les bacs pro, vous avez très peu de chances de vous en sortir. Et indirectement, ça m'a mis au défi, tu vois. C'est pas parce qu'un prof il te dit ouais t'es pas fait pour ça qu'au final t'es pas fait pour ça. Bien au contraire. On m'a toujours dit t'es nul à l'écrit, bah au final ça m'a valu un 14 mon article, donc j'étais contente.
En fait, il y avait des témoins, ce qu'on appelait des grands témoins. Donc il y a eu Monseigneur Turc qui a parlé, donc c'était la personne la plus âgée, en effet. Et qui a parlé de la doctrine sociale de l'Église et de l'état de la planète, et donc de notre état de consommateur, de surconsommateur, et qu'il fallait réagir. Après, nous avons eu un témoignage d'une dame qui a travaillé dans un très grand groupe de CAC 40 et qui a parlé de la violence des licenciements et comment elle a quitté ce monde-là parce qu'elle trouvait ça dur. Et au contraire, maintenant, d'accompagner ces personnes qu'on appelle en recherche d'emploi ou en reconversion professionnelle, qui veut dire en fait au chômage. Donc, elle les coach et elle essaie de les reconstruire. Donc, c'était une très belle vision. Elle était un petit peu plus jeune. Après, nous avons eu un plus jeune encore, hein, de 28 ans, qui a créé une société coopérative. C'est-à-dire que tous les salariés sont actionnaires, si on peut dire, de l'entreprise. Et ça s'appelle, c'est à Rouen, il s'appelle Tout en vélo. Donc c'est impact carbone quasi zéro, hein, enfin sauf la transpiration, la physique, tout ça, de se déplacer. C'est qu'ils livrent tout ce qui est fleurs, livres, qu'importe, et ils font aussi des déménagements. Et il a réussi à créer cela dans d'autres villes. Donc lui, c'est dès son école, donc à l'état de nos étudiants d'aujourd'hui, qui avait cette volonté de sauver aussi un peu la planète. La troisième personne, c'est un chef d'entreprise. C'est lui le responsable de l'entreprise, mais il a bien dit que l'entreprise ne lui appartenait pas. Et que quand à chaque fois qu'il accueillait quelqu'un, il lui donnait trois temps. Le temps zéro, c'est-à-dire quand la personne arrive dans ce qu'elle est. 3 mois plus tard, la personne, il estime qu'elle est à 50% de ses capacités d'action, de rendement, et qu'à 6 mois, bah, cette personne est pleinement capable de travailler dans l'entreprise. Et donc, c'est de montrer comment leur foi disait, bon, on va essayer d'accompagner les personnes dans le travail et pour le souci de la planète, dans le cas du jeune de Rouen.
J'ai pu écouter Robert, qui faisait un engagement avec, pour rendre visite dans les hôpitaux, pour passer du temps avec les personnes malades, leur apporter de l'attention, discuter avec eux. Bah, c'était très intéressant.
Zoé, qui nous a présenté son association sur les demandeurs d'asile, elle a expliqué qu'elle s'occupait des gens qui demandaient les asiles en France. Et j'ai retenu qu'il y avait 95 000 personnes par an qui demandaient l'asile en France.
Alors moi, j'ai vu un aumônier qui travaille en prison, qui s'appelle Bruno. Et il m'a raconté que la vie en prison était surtout entourée de violences entre chaque prisonnier, même si ils sont là pour que 3 mois. 3 mois avant leur incarcération ou pour leur jugement. On sait qu'il en avait d'autres, il avait des gens qui étaient à perpétuité. Il a dit beaucoup de choses négatives et positives en dehors et en la vie réelle à l'intérieur. Par exemple, je sais qu'il a vu une personne qui était qui a eu la peine de mort. Et du coup, il avait fait une messe avec lui. Et ça nous a appris plein de choses sur la vie en prison. Alors que, par exemple, quand on voit les choses à la télé, ça peut être une chose et à l'intérieur, c'est une autre.
En gros, c'est un café, c'est un restaurant, comment dire ça ?
Oui, c'est un restaurant.
Voilà, qui embauche des personnes en situation de handicap mental, donc trisomie et autisme. Ils ont fait ça parce que 750 000 personnes handicapées en France, ils sont sans boulot. Voilà, et il y a seulement 0,5% qui travaillent dans un milieu ordinaire. Alors, ils ont 4 restaurants et ils ont une boutique pour vendre du café. Ah, leur objectif, c'est de donner un métier à des personnes pour réduire les inégalités et leur donner confiance dans le monde du travail. Ils disaient qu'il faut avoir un travail pour après avoir le permis.
Les aider financièrement.
Voilà, c'est une façon de les socialiser et qu'il y ait moins d'inégalités par rapport aux personnes qui n'ont pas de handicap.
Moi, je pense qu'on nous a posé la question des émotions. Mais avant même de nous poser la question des émotions, on ne s'était pas posé forcément la question de ce qu'on voulait faire plus tard. Et là, en nous posant cette question-là, en nous confrontant à nous-mêmes en soi, en se remettant en question et en comprenant que des fois, on avait des réactions qui peut-être pouvaient être un petit peu dépasser les bornes et nous mettre au pied du mur comme ça, je pense que ça peut nous aider. Et d'abord, se remettre en question, ça peut aussi nous permettre justement d'avoir une idée un petit peu sur le plan professionnel par la suite, en se disant qu'il y a certains métiers qu'on ne pourra pas faire parce qu'il y a des émotions qui prendront trop le dessus. Et ça nous permet aussi de faire un tri sur plein de choses, je pense.
Il faudrait prendre du recul et savoir en fait ce qui ne va pas et ce qui va. Quelle valeur va nous permettre d'être compatible avec ce qu'on veut faire et ce qu'on est, et ce qui nous permet de nous valoriser plus que d'autres valeurs ou d'autres choses qui nous ralentissent. Et en fait, je pense que ces valeurs-là, il y a toujours des valeurs qui seront importantes pour nous dans notre vie, c'est-à-dire dehors au quotidien, hormis le fait de ce qu'on veut faire plus tard.
Et je pense qu'en étant soi-même, c'est comme ça qu'on va finir par plaire. Et combien même on ne plaît pas, au moins on est fidèle à nous-mêmes et il n'y a rien de mieux. Et si on veut vraiment se sentir bien, il faut être comme ça. Et si on veut s'en sortir dans la vie, c'est une question d'ambition et c'est une question d'honnêteté avec soi-même aussi. Parce que si on n'est pas honnête avec soi-même, tôt ou tard, on finit par se perdre et on finit par chercher, on ne sait même plus qui on est. Et c'est ce qui, pour moi, après, c'est que mon avis personnel peut engendrer des dépressions à 40-50 ans parce qu'on se dit, j'ai rien fait de ma vie, je me suis menti à moi-même, tout ça pour plaire. Et qu'est-ce que j'ai fait au final ? Pas grand-chose. J'ai juste fait des choses qui pouvaient plaire aux autres et pas à moi. Et je pense que c'est un problème.
Et en fait, j'essaye de rassembler tous les conseils qu'on me donne, plus celui de ma mère, puisque c'est plus ma mère qui me rabâche, qui me répète et qui me soutient, en fait. Elle sait que je peux y arriver et elle dit qu'en fait, tout simplement, en fait, la différence fait justement ma force et que je peux avancer comme ça. Et en fait, le fait d'avoir eu ce conseil-là, ça m'a beaucoup changé. Et depuis, j'ai eu beaucoup plus de facilité à comprendre les choses. Et maintenant, je me sens plus intégré, j'ai plus confiance en moi. Et en fait, je pense que le fait d'avoir plusieurs gens autour de moi, ça m'aide beaucoup, en fait. Et j'ai vraiment de la chance par rapport à beaucoup de gens, vraiment.
J'ai longtemps réfléchi sur la personne que je devais être au final. Et je me suis retrouvé en arrêtant l'école, parce que moi, j'ai dû faire 2 années sabbatiques. Et c'est là où je me suis retrouvé. Donc je pense que des fois, il faut aussi savoir mettre une pause et ne pas se dire que c'est par fainéantisme et que l'être humain, il a aussi besoin de se retrouver, il a besoin de réfléchir. Si on est doté d'une conscience, c'est pas pour rien. Si on est doté d'intelligence, c'est pas pour rien. Et il faut aussi se dire que dans la vie, tout est une question d'épreuve, mais qu'il faut les surmonter, que rien n'est insurmontable. Peu importe l'âge qu'on a, peu importe ce qu'on a fait dans notre vie, ce qui compte, c'est demain, c'est aujourd'hui et c'est pas avant. Au début, je m'étais dit que j'ai pris 2 ans pour rien, j'ai perdu 2 ans de ma vie. Et au final, non, je me suis dit, en fait, tu t'es rendu compte que certes, l'être humain, il est doté d'une capacité pour réfléchir, pour s'ouvrir au monde. Et que si on est autant dans ce monde-là, c'est pas pour rester chacun de son côté ou se détruire les uns les autres. C'est plus pour se dire, au final, il y a une fraternité. Donc, je me suis directement rescolarisé. J'ai voulu montrer que la République française, elle a été mise en place pour que justement on soit tous libres, on soit tous égaux, qu'on ait droit à l'école, qu'on ait droit à l'enseignement. Et aujourd'hui, moi, je suis dans une classe où je suis épanoui parce que j'ai transmis aussi les conclusions que j'ai pu faire de la vie. J'ai pu débattre avec eux et je me suis rendu compte que j'étais pas seul à vivre des choses difficiles.
Le succès, c'est quelque chose quand tous les gens, vraiment, idolâtrent quelqu'un et vraiment, sur cette personne, on a l'impression qu'elle est pas humaine, en fait. C'est vraiment on idolâtre une personne plus pour sa réussite, mais on idolâtre une personne parce qu'en fait, tout simplement, elle a des gens, elle a plein de gens, une tonne de personnes qui aiment bien ce qu'il fait. Et il y a des personnes qui vont la suivre juste pour le nombre de personnes qui la suivent. Et ça, je trouve ça assez abusé parce qu'en soi, ça reste des humains. Et si tu ne suis pas une personne pour son travail, je comprends pas pourquoi tu l'idolâtrais parce qu'il y a du monde qui la suit, puisqu'en soi, tous les rageux qui n'aiment pas forcément que une personne réussisse, certaines personnes va réussir dans un contenu ou dans un domaine, ils vont pas aimer. Et moi, je me dis dans ces moments-là, mais en fait, c'est des humains comme nous et ils vont aux toilettes comme nous. C'est cru, mais c'est réel.
Alors moi, je suis fâché contre le succès. Le succès et moi, on ne s'apprécie pas. Alors déjà de 1, parce que je l'ai pas connu. Et de 2, il ne me plaît pas forcément le succès parce que c'est quelque chose qui peut nous changer, qui peut nous écarter de la réalité. Parce que quand on a le succès, on subit aussi les répercussions du succès. Et ce succès-là, comme William disait, c'est quelque chose que tout le monde veut maintenant. Et tout le monde le veut, justement, on rentre dans la même thématique que tout à l'heure, c'est parce qu'on veut plaire, parce qu'on a besoin de dire « Regardez, moi j'ai réussi, j'ai beaucoup de mal, moi, en tout cas, avec cette notion-là de succès aujourd'hui. » C'est plus la notion de succès aujourd'hui qui me dérange, en fait. Ce n'est pas le succès en lui-même, c'est plus la notion qu'on a du succès aujourd'hui qui me dérange, parce qu'on en a tous envie, on le veut tous pour prouver quelque chose, et c'est pas forcément quelque chose de... Je sais pas, on idéalise quelque chose qui n'a pas lieu d'être. Je trouve que les vraies valeurs qu'on devrait avoir, c'est plus le partager pour pouvoir atteindre le succès, justement. Essayer de tous s'entraider. Tu vois que quelqu'un veut le succès, c'est pas grave, on va l'avoir ensemble, le succès. Je vais pas être tout seul à l'avoir et te montrer que moi j'ai réussi et pas toi. Pour moi, le succès, c'est une réussite. Ouais. Pour moi, le succès, c'est une réussite qui a été détournée. La réussite, c'est encore mieux que le succès. Parce que la réussite, on n'est pas obligé de faire du bruit pour l'avoir.
Ça ressemble à quoi, la réussite?
La réussite, c'est être épanoui.
On passe à un peu plus de légèreté. On allait au cœur de la récré pour poser cette question sérieuse. Quel est le métier que tu voudrais faire plus tard?
Le métier que je vais faire plus tard, ce serait inventer des jeux vidéo.
Album Comics, c'est un endroit où on voit des jouets, des mangas, des BD et des livres.
Moi, j'aimerais être mangaka pour créer des mangas.
Maîtresse connue.
Avocat. Astronaute.
Moi, j'aimerais bien être physicien théoricien.
Mon plus grand rêve, c'est de devenir kebabier pour avoir plein de kebabs.
Moi, j'ai envie de devenir scientifique. Comme ça, je peux analyser des choses. Ou être scientifique archéologue, comme ça, pour découvrir de nouvelles choses.
J'aimerais bien devenir inventeur pour fabriquer des nouvelles choses. Par exemple, je sais pas, moi, des voitures volantes ou comme ça.
C'est de devenir astronaute. Parce que Jules, il me dit que j'y arriverai jamais parce que je suis trop nulle en maths.
De devenir astronaute.
J'hésite un peu être maîtresse, mais je veux bien essayer maîtresse de français.
On termine avec Noroko, à toi Chloé.
Alors, pour coller avec notre thème du succès, je vais vous parler de l'histoire inspirante de ces femmes népalaises qui ont gravi l'Everest. Un peu de culture générale, l'Everest, c'est le plus haut sommet du monde, avec une altitude de 8849 mètres, et il fait partie de la chaîne de montagnes de l'Himalaya, à la frontière du Népal et de la Chine. Alors l'ascension de l'Everest, c'est pas pour n'importe qui, c'est un vrai défi d'alpiniste qui a malheureusement fait de nombreuses victimes. Et ces dernières années, plusieurs femmes népalaises ont réussi ce challenge, représentant un vrai symbole d'émancipation. Elles sont arrivées là où on ne les attendait pas, dans une société où les traditions font que les femmes ont un rôle bien précis qui ne consiste pas à une telle performance. Elles ont affronté tous les obstacles qui se sont présentés à elles, ont recommencé lorsqu'elles n'y sont pas arrivées la première fois, et elles ont réussi, en prouvant qu'elles y étaient arrivées alors que personne ne croyait en elles. Aujourd'hui, elles sont devenues de réels modèles d'ambition chez les Népalaises. L'une d'elles a même monté sa propre boîte de guide de haute montagne, une autre a fondé une association qui accompagne des femmes népalaises dans leurs projets d'alpinisme. Bref, de vraies histoires de succès qui donnent envie de faire des trucs qui nous paraissent impossibles. Je vous conseille le petit récit qui raconte tout ça plus en détail sur France TV Sport, c'est vraiment inspirant. Et si vous voulez aller plus loin, la sociologue Anne-Benoît Janin a publié le livre « Les Népalaises de l'Everest » qui raconte leur parcours.
Durant mes études, on m'a souvent fait des critiques paradoxales. T'es pas assez ceci, t'es un peu trop cela, fais comme si, non en fait fais comme ça, c'est bien, non en fait c'est pas assez bien. J'étais bien embrouillé, pourtant j'ai toujours une idée en tête. Être là où on ne m'attend pas. Je voulais surprendre. Mais impossible de me souvenir qui m'avait donné ce conseil. Frustré, je suis parti fouiller ma collection de DVD et là j'ai trouvé mon bonheur. Aujourd'hui je vous propose le film Monstre Academy, un long métrage un peu trop oublié des studios Pixar sorti en 2014. C'est le préquel du culte Monstre et compagnie, on retrouve donc nos amis Bob Razowski et Jack Sullivan, qui rentrent à l'université. Le premier est travailleur mais personne ne croit en lui, et le second est célébré, mais se repose sur ses lauriers. Nos monstres opposés vont apprendre à vivre ensemble pour s'imposer dans l'université des monstres qui les met à mal. Comme dans tous les Pixar, il y a plusieurs degrés de lecture. Vous ne verrez pas le même film en fonction de votre âge et de votre vécu. C'est dans une ambiance étudiante mouvementée que de grandes questions, comme la confiance en soi, travailler avec les autres ou c'est quoi réussir, prendront place. Le film apporte une conclusion très américaine, mais rafraîchissante pour nos auditeurs un peu anxieux. C'est le do-it-yourself. C'est préférer suivre sa sensibilité plutôt que les normes. C'est préférer se trouver soi plutôt que de faire plaisir. C'est préférer partager qui on est plutôt que de suivre des règles.
C'est la fin de notre émission, merci de nous avoir écoutés. Aujourd'hui, vous avez écouté les témoignages de Roxane, ancienne élève en bac pro commerce à Saint-Vincent-de-Paul, Iliane et William en première SPVL et membre des cordées, Bérangère Foisset de la pastorale, les BTS SP3S dont Louis, Laurine et Thiago. Un très grand merci à eux. Merci également aux classes de primaire pour leurs réponses à notre question sérieuse. Et enfin, surtout, n'hésitez pas, si vous avez envie de nous partager un projet, une actu ou une recommandation, envoyez-nous un mail à radio@gs-svp.com. On se fera un plaisir de venir vous enregistrer. On vous laisse avec les Beatles, Baby, You're a Rich Man. À très bientôt sur AZ Radio 13.